C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.
Bonjour et bienvenue à vous fidèles auditeurs de C'est le temps qui fait la panique, ce magazine qui alerte sur l'inflation des paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Discours ou langage de complot, langage qui soupçonne et accuse l'autre de se concerter pour nous nuire, de planifier des attaques contre soi. C'est le thème du numéro de ce magazine, fruit d'un partenariat entre la Bénévolentia Grand Lac et Radio Capi. Eh bien, on le sait, ce type de discours est devenu très courant dans le contexte du conflit armé qui déchire l'est de la RDC, avec ses retombées sur la situation sécuritaire et humanitaire de la région. Les autorités congolaises accusent les Occidentaux de comploter en se servant du Rwanda pour déstabiliser l'est du pays et exploiter ses ressources minières. De leur côté, les Rwandais accusent le gouvernement congolais d'entretenir les combattants FDLR pour déstabiliser leur pays. Et ce discours se répercute dans les relations entre communautés et populations de la région, ce qui crée un certain climat de soupçons et de méfiance entre ces dernières. Est-ce le fait que c'est devenu un langage courant, un discours relayé par les médias et les réseaux sociaux, une position des autorités qui confirme effectivement qu'il y a réellement complot? Pourquoi et dans quelles circonstances les politiques font-ils recours à ce type de discours? Quelles sont les probables conséquences du fait de s'accuser de préparer des coups bas contre les autres? Eh bien, c'est autour de ce questionnement que nous voulons échanger avec notre invité, le professeur Michel Bissa Kiboul, enseignant-chercheur à l'Université de Kinshasa, spécialiste des questions de la cohésion sociale dans les sociétés en crise. Professeur Michel Bissa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci d'être là, merci de répondre aux préoccupations des auditeurs de Radio Capi. Eh bien, on va commencer par suivre ce premier extrait de notre feuilleton qui nous donne une illustration du thème de notre magazine. Suivons.
Venez. J'ai une révélation à vous faire, les gars.
C'est quoi? Dites-nous. Venez d'abord. Ah bon? Mais vas-y rapidement, rapidement. Dans quelques instants seulement, on va proclamer l'équipe vainqueur du tournoi des billards. Alors, sans moi, nous...
S'il vous plaît, la team, s'il vous plaît. Je vous prie de rester très vigilants.
Ah bon?
Oui. J'ai découvert qu'il y a un complot mafieux.
Complot? Oui. Il y a un complot
pour nous empêcher de remporter ces trophées au profit de l'équipe de Mbouy.
Quoi? Comment as-tu été au courant d'aider tout ça? Comment?
Mais mon ami, j'ai aperçu Mbouy à maintes reprises à la cantine, en train de partager la bière avec Mbouta, qui est la présidente du jury.
J'ai l'impression qu'il y a un complot contre notre équipe. Tu dois avoir raison.
Oui.
Amani, tu as totalement raison. Nous devons être prudents. En tout cas, nous devons être prudents et faire très attention.
Oui,
je te dis. J'ai aussi constaté que depuis un bon moment, Mbouy essaye de nous exclure de tous les avantages auxquels les autres étudiants juifs à l'université.
Il va nous faire ça là vraiment.
C'est clair.
Mais écoute, et maintenant si ces prix ne nous est pas décerné à cause de ces complots, ça sera une autre façon de nous éliminer publiquement.
Chers amis, chers étudiants, chers étudiants avancés. Le moment tant attendu est arrivé. Nous allons proclamer les résultats de notre tournoi interuniversitaire de billard. Je demande à Mbouy et à Mani, les deux candidats dont les équipes étaient en lice, de passer devant.
Ah bah j'attendais, c'est
moi. Je savais que mon équipe allait se distinguer. Batet qui va gagner. Ndilaï. Tout le monde, Batet qui va gagner.
S'il vous plaît.
Le fait de passer devant là, ça signifie que...
Attends. S'il vous plaît, je vous prie de garder silence pour nous permettre de bien poursuivre notre cérémonie. Bon, merci à vous. Je suis ravie qu'en ce jour, nous fassions solennellement la remise de prix. Après presque une année de challenge entre plusieurs équipes. Hein. Non, mais Amani, qu'est-ce que tu es en train de faire hein?
Donne-moi ça.
Pourquoi tu m'as ravi le trophée alors que je ne l'avais même pas encore décerné?
Je ne permettrai pas aux comploteurs de voler les prix qui me reviennent des droits.
Qui nous revient?
Ouais,
c'est ça.
Ça nous revient, ça.
Eh bien, professeur, dans ce tableau, on entend un étudiant déclarer « Il y a un complot mafieux pour nous empêcher de gagner le trophée. » Et lorsqu'on lui demande « Comment tu as su ?», ce dernier répond « Je pressens qu'un complot se prépare contre nous. » Professeur Michel Bissa, n'est-ce pas que parfois, le fait de soupçonner ou d'accuser l'autre de comploter contre soi ne peut relever que de simples suppositions ou insinuations qui ne reflètent pas forcément la réalité des choses, un peu comme cet étudiant dans le sketch, professeur?
Oui, vous avez totalement raison. D'ailleurs, c'est pas que ça paie, mais de manière générale, c'est même majoritairement que les présomptions, les préjugés, les dangers perçus peuvent être réels, peuvent conduire les gens à développer des mécanismes de protection. Alors que le problème n'est pas réel, alors ils peuvent aller vers la calomnie, vers les diffamations, vers les paroles médisantes qui peuvent porter un coup fatal, non seulement si la cohésion sociale, même si la vie, même si la cohésion de toute la communauté. Donc, effectivement, la plupart du temps, ce sont des perceptions, des préjugés, des craintes sans fondement. Parce que le problème n'est pas problème en soi, c'est la manière de l'interpréter qui va alors conduire celui qui croit qu'il est en danger à se prémunir en portant un coup fatal vers l'autre.
Oui, professeur, dans le contexte de la crise armée dans l'est de la RDC, est-ce qu'on peut dire que le discours autour des complots développés par la communauté internationale est justifié? Est-ce qu'il y a-t-il des faits qui montrent aujourd'hui qu'il y a réellement une certaine intention de nuire à la République démocratique du Congo?
Bon, dans le contexte de ce qui se passe à l'est de notre pays à ces jours, la vérité est que la guerre est devenue une affaire holistique, multidimensionnelle. Et la guerre se mène sur plusieurs champs de bataille. Ce n'est plus une affaire exclusivement des militaires. Et ceux qui combattent vont aussi amener la lutte au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la communication. Et dans ce cadre de la communication des réseaux sociaux, va alors se développer les mécanismes de mobilisation ou de démobilisation des alliés. La vérité est que ni la RDC ni le Rwanda ne développent une industrie d'armement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tirent profit lorsqu'ils peuvent vendre les armes et tout. Ce n'est pas nécessairement des pays. Ça peut être des firmes multinationales, ça peut être des individus qui peuvent être du côté des protagonistes. Alors, lorsque un camp a besoin des alliés et qu'il estime que ces alliés-là n'interviennent pas suffisamment, il peut développer des mécanismes d'indexation. Pour dire s'il ne fait pas ça, donc il est derrière tel. Mais au jour d'aujourd'hui, seule une recherche scientifique approfondie peut conduire à montrer les rôles exacts de tel ou de tel autre dans le développement de la guerre. Mais pour ces guerres-là, n'oublions pas, les responsabilités sont d'abord internes pour chaque pays. Seuls les Congolais doivent être forts pour libérer leur pays. Si nous ne sommes pas forts pour combattre et libérer notre pays, évidemment, la tendance viendra alors de chercher des boucs émissaires et de nous jeter vers ces boucs émissaires-là. Alors, ça peut être basé sur des faits réels ou des faits perçus.
Oui, professeur, vous parliez tout à l'heure d'un discours pour mobiliser ou démobiliser des alliés. Est-ce que ça peut aussi être une stratégie positive pour avoir gain des causes? Ou peut-être aussi on peut parler d'une stratégie qui relèverait simplement de la démagogie?
En réalité, la question delà de la dimension démagogique ou de la dimension des faits, c'est que le discours doit être construit. Chaque pays doit construire son discours, et lequel discours devrait être basé sur un certain nombre d'éléments, parmi lesquels l'honnêteté et la transparence. Si l'État construit un discours dans lequel discours il base l'honnêteté et la transparence, alors tout problème ou accusation n'aidera pas nécessairement l'État à remonter sa pente. Ce qui peut aider plutôt l'État, ça peut être une communication transparente, une communication d'honnêteté et de justice. Alors, à ce moment-là, lorsque ces trois grandes puissances, ces valeurs se mettent ensemble, vous pouvez évoluer. Mais maintenant, aussi bien du côté de l'État que du côté de ceux qui adressent l'État congolais aujourd'hui, ils utilisent tous la communication, le langage, des médias pour exprimer leur point de vue. De notre côté, le problème maintenant vient du fait que les réseaux sociaux ont donné la parole à n'importe qui. Alors chacun peut s'asseoir où il est, il pense à des choses et il estime que ses constructions mentales peuvent être des vérités. Mais il ne comprend pas qu'il est en train de porter un coup non seulement à la cohésion nationale, mais même parfois aux vies humaines. Il peut même décourager les bonnes volontés. Parce que n'oubliez pas, s'il y a quelqu'un qui vous vient en aide, alors que ce n'est pas de sa responsabilité de combattre pour vous. Le président burundais l'avait dit dans une vidéo, ce n'est pas les autres qui viendront combattre pour vous. Nous venons en appui. Mais s'ils viennent en appui et que nos autorités officielles estiment que l'appui de ces gens-là est capital, j'avais suivi dernièrement le vice-premier ministre de la Défense qui appréciait l'apport de casque bleu de la Monisco. Mais dans les réseaux sociaux, les gens sans preuve étaient en train d'indexer ces casques bleus, qui pourtant étaient là en train d'aider à sécuriser. Ce genre de liberté, alors, vont aller vers l'accentuation de la crise, vers le découragement de ceux qui font le travail dans l'honnêteté, dans la vérité, et dans la justice.
Et professeur, vous soulignez donc il faut qu'il y ait honnêteté, transparence et justice dans le discours à construire pour exposer les faits relatifs à cette crise. On va poursuivre, professeur, avec ce deuxième extrait de notre feuilleton où il est question de parler de risques derrière ce type de langage. Suivons.
Amani, s'il vous plaît, par respect à toute l'organisation de ce tournoi, remettez immédiatement ce trophée pour que nous terminions cette cérémonie.
Amani, ne l'écoute même pas.
Continuez la cérémonie. Hein? Je ne vous empêche pas de poursuivre la cérémonie. L'essentiel est que le trophée est déjà dans les mains de la vraie équipe gagnante.
Non, mais tu rigoles ou quoi
équipe.
Tu rigoles?
Non, je ne rigole pas.
Remettez le trophée. J'ai dit remettez le trophée avant que je n'ai pris le service de sécurité de s'occuper de votre cas.
C'est à vous, c'est sécurité et après.
Remettez-moi ce trophée.
Rien. Je ne suis pas surpris d'entendre la présidente du jury tenir un tel langage. Non. Vous complotez avec l'équipe de Mouy pour protéger ces grands marchés secrets que vous avez
c'est
déjà
construits.
Lorsque vous partagez des bières à la cantine.
Mais,
On connaît tout et on sait tout. Hein? Nous sommes au courant que vous avez mis en place une équipe secrète d'étudiants qui était chargée de tout faire pour que notre équipe soit exclue du tournoi. Papa, on sait tout, oui.
Attends,
on sait
j'ai l'impression que vous délirez. Vous délirez. Je ne sais pas d'où est-ce que vous... vous avez tiré ces informations infondées.
Non, non. Non,
nous n'allons plus supporter cette injustice qui a longtemps duré en défaveur de notre équipe.
Jamais.
Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous n'aurez jamais ces trophées.
Mouta, c'est à Mouta. Mouta, c'est à nous d'avoir
ces trophées. Il faut que la sécurité arrête ces trophées de la main de la
main.
Qui veut perturber cet événement?
Tu écris pourquoi?
Sinon, tu fais. Sinon, toi-même, tu réponds. Donne-moi ces trophées.
Affronte-moi.
Donne-moi ces trophées. Amen. Amen. Mouge Vito. Amen.
Amen. De moi, tu vas voir.
Mais c'est ton père. Yo, amène.
Eh bien, professeur, on a dans ce deuxième extrait une situation telle que celui qui soupçonne l'autre de comploter contre lui est amené à réagir anticipativement en arrachant le trophée des mains de l'organisateur. Il se défend contre une menace soupçonnée en posant un acte violent, en se faisant lui-même justice, ce qui peut aussi provoquer des réactions violentes et agressives. N'est-ce pas là une illustration des risques ou des conséquences qui peuvent découler d'utilisation de ce langage porté sur des accusations de complot, professeur?
Oui, évidemment, le problème de la crise, c'est que lorsque les gens sont en conflit, la première des choses, c'est la colère qui arrive. Or, la colère, c'est la petite sœur de la folie. En fait, quand quelqu'un est en colère, il est presque fou. Et là, il y a énormément de risques que parfois les gens ne soupçonnent pas autour de l'accentuation de la crise, autour du découragement des bonnes volontés, autour de la perpétuation des violences et même des guerres, et même la division des communautés. Il y a donc tous ces risques et tous ces dangers qui arrivent lorsque le langage n'est pas bien soigné, lorsque on estampille mal les gens. Vous voyez, nous venons de quitter la période de la campagne électorale. Nous avons vécu des discours de haine extraordinaire où on passait le temps à qualifier certains candidats d'être étrangers alors que c'est des candidats connus au pays. Ça va laisser des stigmates, ça va laisser des poids énormes dans les consciences et des frustrations qui, un jour ou un autre, peuvent déboucher sur une violence ouverte et de grande ampleur. Donc, c'est une question capitale que l'État devrait regarder, devrait tenir, mais aussi l'éducation et la sensibilisation. C'est pour cette raison-là que il faut toujours habituer les gens à se rapprocher des trois tamis de Socrate. Socrate, lorsqu'on vient lui annoncer une nouvelle, tu sais, tel a dit, tu sais, tel a comploté, tu sais, tel est en collaboration ou en coopération avec tel ou tel autre. Socrate va d'abord poser la question, est-ce que c'est vrai? Tu as vraiment la preuve que c'est vrai ce que tu veux dire. Deuxièmement, est-ce que c'est juste et honnête ce que tu veux me dire là? Enfin, quel est l'intérêt que moi j'ai ou que la société a dans cette affaire-là? Aujourd'hui, surtout dans les provinces en proie à la guerre, je prends le Nord Kivu et maintenant le Sud Kivu. Chaque jour qui passe, vous lisez dans des groupes WhatsApp, hein, on a arrêté ou bien on a soupçonné telle autorité ou telle personne d'être de connivence avec Corneille Nangaa ou avec telle autre structure rebelle. Ça devrait être le travail des structures officielles. Ce n'est pas le travail des réseaux sociaux. Sinon, à force de véhiculer ce genre de présuppositions, il y a même risque de désorienter l'attention des services officiels qui doivent se focaliser sur des pistes vérifiables, prouvées et qu'on peut démontrer.
Mais pourquoi, professeur, pourquoi parfois on croit trop vite à ces genres de discours que vous qualifiez des présuppositions ou des suppositions?
Oui, les gens y croient trop vite d'abord parce qu'il n'y a pas une bonne information. Lorsque l'information officielle n'est pas donnée, alors on ouvre la voie à des rumeurs. Et la rumeur, c'est la facilité. Vous voyez, la vraie information demande de vérifier, de prouver, de dire quelle est la source. Mais la fausse information, c'est une rumeur, c'est de la facilité. Tout le monde va dire ce qui pense être vrai. Alors, les rumeurs vont vite, mais les gens en alerte, mais c'est des fausses alertes, et puis ça progresse. Un musicien à Kinshasa avait dit, vérité est un escalier, L'okuta et akana
ascenseur. Donc le mensonge arrive plus vite que la vérité. Professeur, accuser quelqu'un de comploter peut parfois susciter des contre-réactions semblables, mais finalement, ce type d'accusation, lorsqu'elle impacte les relations entre les États, entre les populations qui adoptent ce type de discours, n'est-ce pas que ceci peut mettre en péril les efforts pour la recherche des solutions à la crise?
Justement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le premier grand risque, c'est que plus les fausses informations circulent, ça finit par fabriquer une opinion publique. Et lorsque l'opinion publique y croit, ça commence à devenir très difficile de pouvoir changer. Vous voyez, autour de l'adversité dans l'armée, nous avons des gens, peut-être aussi de l'armée, qui pouvaient établir la liste de leurs collègues et dire que tel est de telle nationalité, tel n'est pas congolais, tel n'est pas ceci. Ce genre d'éléments peuvent avancer et ça peut décourager d'abord les bonnes volontés à l'interne, mais au niveau des États aussi, l'opinion publique qui est fabriquée risque aussi de décourager. Vous voyez par exemple ce qui s'est passé ici. La vérité est qu'il y a les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et tout, qui font partie de la communauté internationale. C'est un peu comme vous voulez prier Dieu. Nous prions Dieu, sachez que les Rwandais aussi prient Dieu.
Exactement.
Et à un moment donné, Dieu vous regarde par rapport à votre capacité d'être juste et d'être dans le vrai. Et la communauté internationale, la RDC est dedans, les Rwandais aussi est dedans. Et donc, c'est pour cette raison-là que ça ne doit pas être une affaire de la rue. Ça doit être une affaire de ceux qui ont étudié les relations diplomatiques, ceux qui portent la voix de la RDC. Mais je le répète encore, l'État doit construire un discours congolais et socialiser les gens dans les églises, dans les partis politiques, dans les universités pour défendre le discours congolais.
Oui,
et c'est
un discours
qui est effectivement basé sur l'honnêteté, la transparence
et la justice. Merci professeur. On va poursuivre professeur avec ce troisième extrait de notre feuilleton qui nous conduit justement vers la conclusion de notre magazine.
Calmez-vous
tout
d'abord,
hein. Comme ça, et puis tu vas voir.
Monsieur l'agent de sécurité, donnez-moi ce trophée.
Tout ça, c'est le complot contre notre équipe qui continue.
silence dans la salle, s'il vous plaît. Maintenant, nous pouvons poursuivre notre cérémonie.
Vous n'êtes qu'un jury partial, un but de manque de professionnalisme.
Manque de comploteurs, on
vous connaît. Écoutez, s'il vous plaît, calmez-vous d'abord. Calmez-vous d'abord. Apprenez à peser vos mots avant de parler. Hein.
Qu'on se pèse comment?
Est-ce que vous avez des preuves qui attestent qu'il y a vraiment complot contre votre équipe?
Preuves?
Vous en avez?
Bon, en parlant des preuves, nous n'avons pas vraiment des preuves, mais le fait d'avoir raté la victoire en finale la plus reprise,
oui,
là, mais aussi le fait que je te voyais avec Mbouyi
soir
à la cantine,
surtout
en tant que président du jury, nous avons l'impression qu'il y a des arrangements secrets.
Il y a quelque chose là, d'abord ami qui est entre lui, non? C'est ça,
surtout ça. Attends, tu t'entends parler, Amani?
Oui.
Tu es vraiment à court d'arguments, Amani.
Comment ça?
Oui, à ta place, moi j'aurais honte. J'aurais honte de dire ces balivernes.
Non, attends,
tu veux dire quoi? Non, mais c'est que tu dis,
c'est
réfléchis.
Taisez-vous tous les deux.
C'est quoi? C'est quoi ça?
Taisez-vous. Nous nous excusons pour ce désagrément. Maintenant, nous allons passer à la remise officielle du trophée. Alors, nos gagnants pour cette compétition sont... C'est l'équipe d'Amani et Tito.
Mais
quelle surprise! En tout cas, moi aussi, je suis très surpris.
Quelle surprise!
Oh non, mais j'étais tellement convaincu qu'il y avait un complot contre nous.
Quelle surprise!
Vous voyez?
En tout cas,
vous voyez?
Oh, mon frère, il y a
ça entre dans l'histoire.
Hey,
gars, Amani, vous avez tellement développé ces langages complotistes pour gagner les prix.
Ah.
Oui. Est-ce que vous vous rendez maintenant compte que ce genre d'accusation sur base des soupçons non fondés et des théories complotistes ne résolvent pas les problèmes?
Ben,
Tu vois, ta honte là.
Bon,
c'est déjà passé, bro. L'essentiel est que.
Il faut tourner ta langue cette fois avant de parler.
C'est bon.
Oui, hein.
Bon. Félicitations, Kitoko. Félicitations. Allez, tape là. Merci.
Waouh, quelle surprise.
J'étais tellement convaincu qu'il y avait un complot contre nous. Le même étudiant, en tout cas, dit plus tôt, nous avons l'impression que des accusations sur base des soupçons non fondés et des théories complotistes, en réalité, ne résolvent pas le problème. Professeur, partant de cette affirmation, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une façon de réagir, de s'exprimer, lorsqu'on a des soupçons que l'autre est en train de comploter pour nous nuire, surtout lorsqu'on n'a pas d'éléments de preuve? Comment réagir justement pour éviter de tomber dans des situations de tension, des situations de conflit, professeur?
Oui, la meilleure solution réside toujours dans le dialogue. Le dialogue est fait justement pour aplanir ce genre d'incompréhension qui peut provenir. N'oubliez pas que la plus grande richesse de toute communauté réside dans la symbiose de sa diversité. Une communauté qui n'a pas une diversité d'opinions, une diversité de la composition, c'est une communauté pauvre. Alors, là où il y a la diversité, c'est-à-dire qu'il y a la différence. Et comme il y a la différence, il suffit tout simplement d'abord, premier point, de reconnaître qu'il y a une différence. Lorsqu'on reconnaît qu'il peut y avoir différence de vie, de crise et de perception, il faut alors prendre le temps de toujours mener l'enquête avant de s'exprimer. Prendre le temps de se demander si c'est vraiment ça. Le point de départ pour mener la bonne enquête, c'est auprès de la personne soupçonnée. La plupart du temps, il nous arrive de rompre les dialogues à cause de nos présomptions, de nos préjugés. Et pourtant, en allant vers la personne que vous soupçonnez, vous pouvez trouver même qu'il y a plus de préjugés que ce que vous pensez. Alors, vous pouvez mesurer l'impact de la crise, vous choisissez le meilleur canal de communication, et puis vous tirez les leçons de votre communication sur ce qu'il faut faire pour éviter à tout prix que les crises n'aboutissent à la division de la communauté, à l'image du fait et surtout pas aux morts d'hommes ou aux blessés.
Oui, donc ne pas rompre le dialogue pour ne pas justement tomber dans ces genres d'accusations, de complots ou autres. Professeur, comment pouvoir garder son calme? Comment réfléchir et rester critique lorsqu'on est victime de ces genres d'accusations qui ne sont pas forcément basées sur des faits, professeur?
Oui, le problème c'est que les personnes victimes vont aussi à leur tour développer des mécanismes de l'autoprotection. Et dans ces mécanismes de l'autoprotection, ils persistent et estiment que dans l'état présent, elle est dans la situation de faiblesse et va alors chercher aussi des possibilités dans des canaux où elle sera en force pour se venger. Ce qui ne sera pas de nature à améliorer la cohésion sociale dans la société. C'est vrai que c'est un exercice difficile, mais ça demande du travail sur soi.
Merci, professeur Michel Bissa-Kiboul. Évitez d'accuser, évitez d'affirmer sans preuve afin de pouvoir aller vers des solutions. C'est le temps qui fait la panique. C'est donc la fin de ce numéro qui a porté sur ce langage de complot, ce discours qui accuse l'autre de préparer secrètement un coup bas contre soi. Et ce type de langage est souvent utilisé en situation de conflit, le cas de la crise armée dans l'est de la RDC, accusation et contre-accusation, ce discours qui met en avant les soupçons, fait naître et accroître la méfiance les uns envers les autres. Difficile donc de se rapprocher, de s'asseoir pour discuter et trouver des solutions pour apaiser les souffrances des populations victimes des violences armées. Avancer vers la solution pacifique, œuvrer pour le retour de la paix et de la cohésion, c'est aborder les causes profondes de la crise sans forcément pointer du doigt accusateur son interlocuteur et sur un ton qui favorise le dialogue et le vivre ensemble. C'est le ton qui fait la panique, un partenariat entre la Bénévolence à Grand Lac et Radio Capi pour vous alerter sur l'inflation des paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Nous disons donc merci au professeur Michel Bissa-Kiboul qui est enseignant-chercheur à l'Université de Kinshasa et spécialiste traite des questions de la cohésion sociale dans les sociétés en crise. Merci également à vous, fidèles auditeurs et auditrices. Prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez ce numéro en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05, toujours sur les antennes de Radio Okapi ou à tout moment sur radiookapi.net et à barirdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Okapi et à barirdc. Encore une fois, merci et au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.